Honoré de Balzac, Illusion perdue. 6. Maintenant, embrassez les pensées qui durent assaillir Lucien pendant qu'il descendait d'Angoulême à Lumeau. Cette grande dame s'était-elle fâchée? Allait-elle recevoir David chez elle? L'ambitieux ne serait-il pas précipité dans son trou à Lumeau? Quoiqu'avant de baiser Louise au front, Lucien eût pu mesurer la distance qui sépare une reine de son favori, il ne se disait pas que David ne pouvait franchir en un clin d'œil l'espace qu'il avait mis 5 mois à parcourir. Ignorant combien était absolu l'ostracisme prononcé sur les petites gens, il ne savait pas qu'une seconde tentative de ce genre serait la perte de Madame de Bargeton. Atteinte et convaincue de s'être encanaillée, Louise serait obligée de quitter la ville, où sa caste la fuirait comme au Moyen-Âge on fuyait un lépreux. Le clan de fine aristocratie et le clergé lui-même défendraient Naïs envers et contre tous, au cas où elle se permettrait une faute. Mais le crime de voir mauvaise compagnie ne lui serait jamais remis. Car si l'on excuse les fautes du pouvoir, on le condamne après son abdication. Or, recevoir David, n'était-ce pas abdiquer? Si Lucien n'embrassait pas ce côté de la question, son instinct aristocratique lui faisait pressentir bien d'autres difficultés qui l'épouvantaient. La noblesse des sentiments ne donne pas inévitablement la noblesse des manières. Si Racine avait l'air du plus noble courtisan, Corneille ressemblait fort à un marchand de bœufs. Descartes avait la tournure d'un bon négociant hollandais. Souvent, en rencontrant Montesquieu, son râteau sur l'épaule, son bonnet de nuit sur la tête, les visiteurs de la Brède le prirent pour un vulgaire jardinier. L'usage du monde, quand il n'est pas un don de haute naissance, une science sucée avec le lait ou transmise par le sang, constitue une éducation que le hasard doit seconder par une certaine élégance de forme, par une distinction dans les traits, par un timbre de voix. Toutes ces grandes petites choses manquaient à David, tandis que la nature en avait doué son ami. Gentilhomme par sa mère, Lucien avait jusqu'au pied haut courbé du franc, tandis que David Séchard avait les pieds plats du Welsh et l'encolure de son père le pressier. Lucien entendait les railleries qui pleuvraient sur David. Il lui semblait voir le sourire que réprimerait Madame de Bargeton. Enfin, sans avoir précisément honte de son frère, il se promettait de ne plus écouter ainsi son premier mouvement et de le discuter à l'avenir. Donc, après l'heure de la poésie et du dévouement, après une lecture qui venait de montrer aux deux amis les campagnes littéraires éclairées par un nouveau soleil, l'heure de la politique et des calculs sonnait pour Lucien. En rentrant dans Lumeau, il se repentait de sa lettre. Il aurait voulu la reprendre, car il apercevait, par une échappée, les impitoyables lois du monde. En devinant combien la fortune acquise favorisait l'ambition, il lui coûtait de retirer son pied du premier bâton de l'échelle par laquelle il devait monter à l'assaut des grandeurs. Puis, les images de sa vie simple et tranquille, parées des plus vives fleurs du sentiment, ce David, plein de génie, qui l'avait si noblement aidé, qui lui donnerait au besoin sa vie, sa mère, si grande dame dans son abaissement et qui le croyait aussi bon qu'il était spirituel. Sa sœur, cette fille si gracieuse dans sa résignation, son enfance si pure et sa conscience encore blanche, ses espérances, qu'aucune bise n'avait effeuillées, tout refleurissait dans son souvenir. Il se disait alors qu'il était plus beau de percer les épais bataillons de la tourbe aristocratique ou bourgeoise à coups de succès que de parvenir par les faveurs d'une femme. Son génie luirait tôt ou tard, comme celui de tant d'hommes, ses prédécesseurs, qui avaient dompté la société. Les femmes l'aimeraient alors. L'exemple de Napoléon, si fatal au XIXe siècle, par les prétentions qu'il inspire à tant de gens médiocres, apparut à Lucien, qui jeta ses calculs au vent en se les reprochant. Ainsi était fait Lucien. Il allait du mal au bien, du bien au mal, avec une égale facilité. Au lieu de l'amour que le savant porte à sa retraite, Lucien éprouvait depuis un mois une sorte de honte en apercevant la boutique où se lisait en lettres jaunes sur un fond vert « Pharmacie de Postel, successeur de Chardon ». Le nom de son père, écrit ainsi dans un lieu par où passaient toutes les voitures, lui blessait la vue. Le soir où il franchit sa porte, ornée d'une petite grille à barreaux de mauvais goût, pour se produire à Beaulieu, parmi les jeunes gens les plus élégants de la haute ville, en donnant le bras à Madame de Bargeton, il avait étrangement déploré le désaccord qu'il reconnaissait entre cette habitation et sa bonne fortune. Aimer Madame de Bargeton, la posséder bientôt peut-être, et loger dans ce nid à rats, se disait-il en débouchant par l'allée dans la petite cour où plusieurs paquets d'herbes bouillies étaient étalés le long des murs, où l'apprenti récurait les chaudrons du laboratoire, où M. Postel, ceint d'un tablier de préparateur, une cornue à la main, examinait un produit chimique tout en jetant l'œil sur sa boutique. Et s'il regardait trop attentivement sa drogue, il avait l'oreille à la sonnette. L'odeur des camomilles, des menthes, de plusieurs plantes distillées remplissait la cour et le modeste appartement où l'on montait par un de ces escaliers droits appelés des escaliers de meunier, sans autre rampe que deux cordes. Au-dessus était l'unique chambre en mansarde où demeurait Lucien. « Bonjour, mon fiston, lui dit M. Postel, le véritable type du boutiquier de province. Comment va notre petite santé ? « Moi, je viens de faire une expérience sur la mélasse. Mais il aurait fallu votre père pour trouver ce que je cherche. Ah, c'était un fameux homme, celui-là. Si j'avais connu son secret contre la goutte, nous roulerions tous deux carrosses aujourd'hui. » Il ne se passait pas de semaine que le pharmacien, aussi bête qu'il était bonhomme, ne donna un coup de poignard à Lucien en lui parlant de la fatale discrétion que son père avait gardé sur sa découverte. « C'est un grand malheur, » répondit brièvement Lucien, qui commençait à trouver l'élève de son père prodigieusement commun après l'avoir souvent béni. Car, plus d'une fois, l'honnête Postel avait secouru la veuve et les enfants de son maître. « Qu'avez-vous donc ? » demanda M. Postel en posant son éprouvette sur la table du laboratoire. « Est-il venu quelques lettres pour moi ?»« Oui, une qui flaire comme baume. Elle est auprès de mon pupitre sur le comptoir. » La lettre de Madame de Bargeton mêlée aux bocaux de la pharmacie. Lucien s'élança dans la boutique. « Dépêche-toi, Lucien. Ton dîner t'attend depuis une heure. Il sera froid !» cria doucement une jolie voix à travers une fenêtre entr'ouverte et que Lucien n'entendit pas. « Il est toqué, votre frère, mademoiselle, » dit Postel en levant le nez. Ce célibataire, assez semblable à une petite tonne d'eau-de-vie sur laquelle la fantaisie d'un peintre aurait mis une grosse figure grêlée de petites véroles et rougeaudes, prit en regardant Ève un air cérémonieux et agréable qui prouvait qu'il pensait à épouser la fille de son prédécesseur, sans pouvoir mettre fin au combat que l'amour et l'intérêt se livraient dans son cœur. Aussi disait-il souvent à Lucien en souriant la phrase qu'il lui redit quand le jeune homme repassa près de lui. « Elle est fameusement jolie, votre sœur. Vous n'êtes pas mal non plus. Votre père faisait tout bien. » Ève était une grande brune, aux cheveux noirs, aux yeux bleus. Quoiqu'elle offrît les symptômes d'un caractère viril, elle était douce, tendre et dévouée. Sa candeur, sa naïveté, sa tranquille résignation à une vie laborieuse, sa sagesse, que nulle médisance n'attaquait, avaient dû séduire David Séchard. Aussi, depuis leur première entrevue, une sourde et simple passion s'était-elle émue entre eux, à l'allemande, sans manifestations bruyantes ni déclarations empressées. Chacun d'eux avait pensé secrètement à l'autre, comme s'ils eussent été séparés par quelque mari jaloux que ce sentiment aurait offensé. Tous deux se cachaient de Lucien, à qui peut-être ils croyaient porter quelque dommage. David avait peur de ne pas plaire à Ève, qui, de son côté, se laissait aller aux timidités de l'indigence. Une véritable ouvrière aurait eu de la hardiesse, mais une enfant bien élevée et déchue se conformait à sa triste fortune. Modeste en apparence, fière en réalité, Ève ne voulait pas courir sus au fils d'un homme qui passait pour riche. En ce moment, les gens, au fait de la valeur croissante des propriétés, estimaient à plus de 80 000 francs le domaine de Marsac, sans compter les terres que le vieux Séchard, riche d'économie, heureux à la récolte, habile à la vente, devait y joindre en guettant les occasions. David était peut-être la seule personne qui ne sut rien de la fortune de son père. Pour lui, Marsac était une bicoque achetée en 1810, 15 ou 16 000 francs, où il allait une fois par an, au temps des vendanges, et où son père le promenait à travers les vignes, en lui vantant des récoltes que l'imprimeur ne voyait jamais et dont il se souciait fort peu. L'amour d'un savant habitué à la solitude et qui agrandit encore les sentiments en s'en exagérant les difficultés, voulait être encouragé. Car, pour David, Ève était une femme plus imposante que ne l'est une grande dame pour un simple clerc. Gauche et inquiet près de son idole, aussi pressé de partir que d'arriver, l'imprimeur contenait sa passion au lieu de l'exprimer. Souvent, le soir, après avoir forgé quelques prétextes pour consulter Lucien, il descendait de la place du Mûrier jusqu'à Loumeau, par la porte Palais. Mais, en atteignant la porte verte à barreaux de fer, il s'enfuyait, craignant de venir trop tard ou de paraître importun à Ève, qui sans doute était couchée. Quoique ce grand amour ne se révélât que par de petites choses, Ève l'avait bien compris. Elle était flattée, sans orgueil, de se voir l'objet du profond respect empreint dans les regards, dans les paroles, dans les manières de David. Mais la plus grande séduction de l'imprimeur était son fanatisme pour Lucien. Il avait deviné le meilleur moyen de plaire à Ève. Pour dire en quoi les muettes délices de cet amour différait des passions tumultueuses, il faudrait le comparer aux fleurs champêtres, opposées aux éclatantes fleurs des parterres. C'était des regards doux et délicats, comme des lotus bleus qui nagent sur les eaux. des expressions fugitives, comme les faibles parfums de l'églantine, des mélancolies tendres, comme le velours des mousses, fleurs de deux belles âmes qui naissaient d'une terre riche, féconde, immuable. Ève avait plusieurs fois déjà deviné la force cachée sous cette faiblesse. Elle tenait si bien compte à David de tout ce qu'il n'osait pas que le plus léger incident pouvait amener une plus intime union de leurs âmes. Lucien trouva la porte ouverte par Ève et s'assit, sans lui rien dire, à une petite table posée sur un X sans linge où son couvert était mis. Le pauvre petit ménage ne possédait que 3 couverts d'argent. Ève les employait tous pour le frère chéri. « Que lis-tu donc là ? » dit-elle, après avoir mis sur la table un plat qu'elle retira du feu et après avoir éteint son fourneau mobile en le couvrant de l'étouffoir. Lucien ne répondit pas. Ève prit une petite assiette coquettement arrangée avec des feuilles de vigne et la mit sur la table avec une jatte pleine de crème. « Tiens, Lucien, je t'ai eu des fraises. » Lucien prêtait tant d'attention à sa lecture qu'il n'entendit point. Ève vint alors s'asseoir près de lui sans laisser échapper un murmure. Car il entre dans le sentiment d'une sœur pour son frère un plaisir immense à être traité sans façon. « Mais qu'as-tu donc ? » s'écria-t-elle en voyant briller des larmes dans les yeux de son frère. « Rien, rien, Ève, » dit-il en la prenant par la taille, l'attirant à lui, la baisant au front et sur les cheveux, puis sur le cou, avec une effervescence surprenante. « Tu te caches de moi ? » « Eh bien, elle-même !»« Je savais bien que ce n'était pas moi que tu embrassais, » dit d'un ton boudeur la pauvre sœur en rougissant. « Nous serons tous heureux !» s'écria Lucien en avalant son potage à grande cuillerée. « Nous ?» répéta Ève. Inspirée par le même pressentiment qui s'était emparé de David, elle ajouta « Tu vas nous aimer moins. Comment peux-tu croire cela, si tu me connais ?» Ève lui tendit la main pour presser la sienne. Puis elle ôta l'assiette vide, la soupière en terre brune et avança le plat qu'elle avait fait. Au lieu de manger, Lucien relut la lettre de Madame de Bargeton, que la discrète Ève ne demanda point à voir, tant elle avait de respect pour son frère. S'il voulait la lui communiquer, elle devait attendre, et s'il ne voulait pas, pouvait-elle l'exiger ? Elle attendit. Voici cette lettre. « Mon ami, pourquoi refuserais-je à votre frère en science l'appui que je vous ai prêté ? À mes yeux, les talents ont des droits égaux, mais vous ignorez les préjugés des personnes qui composent ma société. Nous ne ferons pas reconnaître l'annoblissement de l'esprit à ceux qui sont l'aristocratie de l'ignorance. Si je ne suis pas assez puissante pour leur imposer Monsieur David Séchard, je vous ferai volontiers le sacrifice de ces pauvres gens. Ce sera comme une hécatombe antique. Mais, cher ami, vous ne voulez sans doute pas me faire accepter la compagnie d'une personne dont l'esprit ou les manières pourraient ne pas me plaire. Vos flatteries m'ont appris combien l'amitié s'aveugle facilement. M'en voudrez-vous si je mets à mon consentement une restriction ? Je veux voir votre ami, le juger, savoir par moi-même, dans l'intérêt de votre avenir, si vous ne vous abusez point. N'est-ce pas un de ces soins maternels que doit avoir pour vous mon cher poète, Louise de Nègrepelisse ? Lucien ignorait avec quel art le « oui » s'emploie dans le beau monde pour arriver au « non », et le « non » pour amener un « oui ». Cette lettre fut un triomphe pour lui. David irait chez Madame de Bargeton, il y brillerait de la majesté du génie. Dans l'ivresse que lui causait une victoire qui lui fit croire à la puissance de son ascendant sur les hommes, il prit une attitude si fière. Tant d'espérances se reflétèrent sur son visage, en y produisant un éclat radieux, que sa sœur ne put s'empêcher de lui dire qu'il était beau. Si elle a de l'esprit, elle doit bien t'aimer, cette femme. Et alors, ce soir elle sera chagrine, car toutes les femmes vont te faire mille coquetteries. Oh, tu seras bien beau en lisant ton Saint-Jean dans Patmos. Je voudrais être souris pour me glisser là. Viens, j'ai apprêté ta toilette dans la chambre de notre mère. Cette chambre était celle d'une misère décente. Il s'y trouvait un lit en noyer, garni de rideaux blancs, et au bas duquel s'étendait un maigre tapis vert. Puis, une commode à dessus de bois, ornée d'un miroir, et des chaises en noyer, complétaient le mobilier. Sur la cheminée, une pendule rappelait les jours de l'ancienne aisance disparue. La fenêtre avait des rideaux blancs. Les murs étaient tendus d'un papier gris à fleurs grises. Le carreau, mis en couleur et frotté par Ève, brillait de propreté. Au milieu de cette chambre était un guéridon où, sur un plateau rouge à rosace dorée, se voyaient trois tasses et un sucrier en porcelaine de Limoges. Ève couchait dans un cabinet contigu qui contenait un lit étroit, une vieille bergère et une table à ouvrage près de la fenêtre. L'exiguïté de cette cabine de marin exigeait que la porte vitrée restât toujours ouverte afin d'y donner de l'air. Malgré la détresse qui se révélait dans les choses, la modestie d'une vie studieuse respirait là. Pour ceux qui connaissaient la mère et ses deux enfants, ce spectacle offrait d'attendrissantes harmonies. Lucien mettait sa cravate quand le pas de David se fit entendre dans la petite cour, et l'imprimeur parut aussitôt avec la démarche et les façons d'un homme pressé d'arriver. « Eh bien, David !» s'écria l'ambitieux. « Nous triomphons ! Elle m'aime ! Tu iras !»« Non, » dit l'imprimeur d'un air confus. « Je viens te remercier de cette preuve d'amitié qui m'a fait faire de sérieuses réflexions. Ma vie à moi, Lucien, est arrêtée. Je suis David Séchard, imprimeur du roi à Angoulême et dont le nom se lit sur tous les murs au bas des affiches. Pour les personnes de cette caste, je suis un artisan, un négociant si tu veux, mais un industriel établi en boutique rue de Beaulieu, au coin de la place du Mûrier. Je n'ai encore ni la fortune d'un Keller, ni le renom d'un Desplein, deux sortes de puissances que les nobles essaient encore de nier, mais qui, je suis d'accord avec eux en ceci, ne sont rien sans le savoir-vivre et les manières du gentilhomme. Par quoi puis-je légitimer cette subite élévation? Je me ferais moquer de moi par les bourgeois autant que par les nobles. Toi, tu te trouves dans une situation différente. Un poète n'est engagé à rien. Tu travailles à acquérir des connaissances indispensables pour réussir. Tu peux expliquer tes occupations actuelles par ton avenir. D'ailleurs, tu peux demain entreprendre autre chose, étudier le droit, la diplomatie, entrer dans l'administration. Enfin, tu n'es ni chiffré, ni casé. Profite de ta virginité sociale. Marche seul et mets la main sur les honneurs. Savoure joyeusement tous les plaisirs, même ceux que procure la vanité. Sois heureux. Je jouirai de tes succès. Tu seras un second moi-même. Oui, ma pensée me permettra de vivre de ta vie. À toi les fêtes, l'éclat du monde et les rapides ressorts de ses intrigues. À moi, la vie sobre, laborieuse du commerçant et les lentes occupations de la science. Tu seras notre aristocratie, dit-il en regardant Ève. Quand tu chancelleras, tu trouveras mon bras pour te soutenir. si tu as à te plaindre de quelque trahison, tu pourras te réfugier dans nos cœurs. Tu y trouveras un amour inaltérable, la protection, la faveur. Le bon vouloir des gens, divisé sur deux têtes, pourrait se lasser. Nous nous nuirions à deux. Marche devant, tu me remorqueras s'il le faut. Loin de t'envier, je me consacre à toi. Ce que tu viens de faire pour moi, en risquant de perdre ta bienfaitrice, ta maîtresse peut-être, plutôt que de m'abandonner, que de me renier, ah, cette simple chose si grande, eh bien, Lucien, elle me lierait jamais à toi si nous n'étions pas déjà comme deux frères. N'aie ni remords ni soucis de paraître prendre la plus forte part. Ce partage à la Montgomery est dans mes goûts. Enfin, quand tu me causerais quelques tourments, qui sait si je ne serais pas toujours ton obligé ? En disant ces mots, il coula le plus timide des regards vers Ève, qui avait les yeux pleins de larmes, car elle devinait tout. « Enfin, dit-il à Lucien étonné, tu es bien fait, tu as une jolie taille, tu portes bien tes habits, tu as l'air d'un gentilhomme dans ton habit bleu à boutons jaunes, avec un simple pantalon de nankin. Moi, j'aurais l'air d'un ouvrier au milieu de ce monde. Je serais gauche, gêné, je dirais des sottises, ou je ne dirais rien du tout. Toi, tu peux, pour obéir aux préjugés des noms, prendre celui de ta mère, te faire appeler Lucien de Rubempré. Moi, je suis et serai toujours David Séchard. Tout te sert et tout me nuit dans le monde où tu vas. Tu es fait pour y réussir. Les femmes adoreront ta figure d'ange. N'est-ce pas, Ève ? Lucien sauta au cou de David et l'embrassa. Cette modestie coupait court à bien des doutes, à bien des difficultés. Comment n'eût-il pas redoublé de tendresse pour un homme qui arrivait à faire par amitié les mêmes réflexions qu'il venait de faire par ambition ? L'ambitieux et l'amoureux sentaient la route aplanie. Le cœur du jeune homme et de l'ami s'épanouissait. Ce fut un de ces moments rares dans la vie où toutes les forces sont doucement tendues, où toutes les cordes vibrent en rendant des sons pleins. Mais cette sagesse d'une belle âme excitait encore en Lucien la tendance qui porte l'homme à tout rapporter à lui. Nous disons tous, plus ou moins comme Louis XIV, « L'État, c'est moi ». L'exclusive tendresse de sa mère et de sa sœur, le dévouement de David, l'habitude qu'il avait de se voir l'objet des efforts secrets de ces trois êtres, lui donnait les vices de l'enfant de famille, engendrait en lui cet égoïsme qui dévore le noble et que Madame de Bargeton caressait en l'incitant à oublier ses obligations envers sa sœur, sa mère et David. Il n'en était rien encore, mais n'y avait-il pas à craindre qu'en étendant autour de lui le cercle de son ambition, il fût contraint de ne penser qu'à lui pour s'y maintenir? Cette émotion passée, David fit observer à Lucien que son poème de Saint Jean dans Patmos était peut-être trop biblique pour être lu devant un monde à qui la poésie apocalyptique devait être peu familière. Lucien, qui se produisait devant le public le plus difficile de la Charente, parut inquiet. David lui conseilla d'emporter André de Chénier et de remplacer un plaisir douteux par un plaisir certain. Lucien lisait en perfection. Il plairait nécessairement et montrerait une modestie qui le servirait sans doute. Comme la plupart des jeunes gens, il donnait aux gens du monde leur intelligence et leur vertu. Si la jeunesse, qui n'a pas encore failli, est sans indulgence pour les fautes des autres, elle leur prête aussi ces magnifiques croyances. Il faut en effet avoir bien expérimenté la vie avant de reconnaître que, suivant un beau mot de Raphaël, comprendre, c'est égaler. En général, le sens nécessaire à l'intelligence de la poésie est rare en France, où l'esprit dessèche promptement la source des saintes larmes de l'extase, où personne ne veut prendre la peine de défricher le sublime, de le sonder pour en percevoir l'infini. Lucien allait faire sa première expérience des ignorances et des froideurs mondaines. Il passa chez David pour y prendre le volume de poésie. Quand les deux amants furent seuls, David se trouva plus embarrassé qu'en aucun moment de sa vie. En proie à mille terreurs, il voulait et redoutait un éloge. Il désirait s'enfuir, car la pudeur a sa coquetterie aussi. Le pauvre amant n'osait dire un mot qui aurait eu l'air de quêter un remerciement. Il trouvait toutes les paroles compromettantes et se taisait en gardant une attitude de criminel. Ève, qui devinait les tortures de cette modestie, se plut à jouir de ce silence. Mais quand David tortilla son chapeau pour s'en aller, elle sourit. « Monsieur David, lui dit-elle, si vous ne passez pas la soirée chez Madame de Bargeton, nous pouvons la passer ensemble. Il fait beau. Voulez-vous aller nous promener le long de la Charente? Nous causerons de Lucien. » David eut envie de se prosterner devant cette délicieuse jeune fille. Ève avait mis dans le son de sa voix des récompenses inespérées. Elle avait, par la tendresse de l'accent, résolu les difficultés de cette situation. Sa proposition était plus qu'un éloge, c'était la première faveur de l'amour. « Seulement, dit-elle à un geste que fit David, laissez-moi quelques instants pour m'habiller. » David, qui de sa vie n'avait su ce qu'était un air, sortit en chantronnant, ce qui surprit l'honnête Postel et lui donna de violents soupçons sur les relations d'Ève et de l'imprimeur. Les plus petites circonstances de cette soirée agirent beaucoup sur Lucien, que son caractère portait à écouter les premières impressions. Comme tous les amants inexpérimentés, il arriva de si bonne heure que Louise n'était pas encore au salon. Monsieur de Bargeton s'y trouvait seul. Lucien avait déjà commencé son apprentissage des petites lâchetés par lesquelles l'amant d'une femme mariée achète son bonheur et qui donne aux femmes la mesure de ce qu'elles peuvent exiger. Mais il ne s'était pas encore trouvé face à face avec Monsieur de Bargeton.